Chapitre 4. L'une de vous a faim ? Lança Tom aux trois femmes. Richard prit une lampe dans le chariot, l'alluma en frottant un morceau d'acier sur un silex et la posa sur un rocher plat. Puis il jeta un regard soupçonneux sur les trois femmes qui approchaient, mais il n'émit aucun commentaire. Quand Callan se fut assise à côté de son mari, Tom offrit à son seigneur la première rondelle qu'il venait de couper dans une longue saucisse. Richard, ayant gentiment refusé le morceau de charcuterie, Callan l'accepta à sa place. Tom coupa deux autres rondelles pour Cara et Friedrich. Jensen était entré dans le chariot pour chercher quelque chose dans son paquetage. Callan aurait parié que c'était un prétexte pour rester seul un moment et reprendre ses esprits. Jensen avait dû être secoué par le discours qu'elle lui avait tenu. Mais lui raconter des mensonges apaisants ne lui aurait pas rendu service, loin de là. Sachant que sa maîtresse n'était pas loin, Betty s'était paresseusement allongée au pied de Rookin, la jument de Jensen. Rookin et Betty étaient vite devenus amis. Les autres chevaux aussi aimaient bien la chèvre et ils se montraient bienveillants avec ses deux petits. Lorsque Jensen se remontra, brandissant un morceau de carotte, Betty se leva d'un bond, la queue battant des records de vitesse en oscillant de droite et de gauche. Espérant ne pas être oubliée lors de la distribution, les chevaux levèrent les oreilles et hennirent doucement. Tous reçurent une confiserie et une caresse entre les oreilles. S'ils avaient allumé un brasero, les voyageurs auraient pu se préparer des légumes, du riz, une soupe ou se faire chauffer du bannock. Mais bien qu'elle fût affamée, Kala n'aurait pas eu la force de cuisiner et elle se résigna à faire avec ce qui était disponible. Jensen proposa de partager un morceau de viande séchée. Comme pour la saucisse, Richard refusa. Négligeant la viande, il se nourrissait de biscuits de voyage desséchés et durs, de fruits secs et de quelques noix. « Tu ne veux vraiment pas de viande ?» demanda Jensen, assise en face de son frère. « Tu dois manger des choses qui tiennent au corps, sinon tu perdrais toutes tes forces. »« Depuis que le don s'est éveillé en moi, je ne peux plus consommer de viande. » Jensen en plissa le nez et le front de surprise. « Et pourquoi le don t'obligerait-il à en faire abstinence ?» Richard s'appuya sur un coude, leva les yeux pour contempler les étoiles et prit le temps de choisir soigneusement ses mots. C'est une affaire d'équilibre. Dans la nature, c'est le résultat de l'interaction entre toutes les créatures vivantes. Au niveau le plus élémentaire, songe à l'équilibre qui existe entre les proies et les prédateurs. S'il y a trop de chasseurs, le gibier vient à manquer et ceux qu'ils consomment disparaissent aussi parce qu'ils finissent par mourir de faim. Le déséquilibre est mortel pour les proies comme pour les prédateurs. S'ils s'installent, c'est la fin du monde pour les deux espèces. Lorsqu'elles surviennent, c'est parce que agir selon leur instinct est une source naturelle d'équilibre. Elles ne le cherchent pas consciemment, mais elles le produisent sans y penser. Les humains sont différents. Sans un gros effort de volonté, nous n'obtenons pas l'équilibre qui est pourtant indispensable à notre survie. Pour ne pas disparaître, nous devons apprendre à utiliser notre cerveau. Nous cultivons les champs, nous chassons pour obtenir de la viande et des fourrures qui nous tiendront chaud l'hiver, ou nous élevons des moutons pour tisser leur laine. Les humains ont dû apprendre à se construire des abris, Jensen. Ils ont aussi développé l'aptitude d'évaluer les choses afin de les échanger. Nous connaissons la valeur de ce que nous avons chassé ou cultivé quand il s'agit de le troquer contre ce que d'autres ont tissé ou bâti. Nous pouvons mettre en rapport nos besoins avec ce que nous savons ou croyons savoir du monde réel. Le plus souvent, nous désirons ce qui sert vraiment nos intérêts vitaux, pas ce qui satisfait des pulsions fugitives. Sais-tu pourquoi nous agissons ainsi? Parce que notre survie à long terme l'exige. En hiver, nous faisons du feu dans la cheminée pour ne pas mourir de froid, mais nous prenons garde à limiter la taille des flammes car elles risqueraient sinon de brûler nos maisons pendant notre sommeil.
Les gens se laissent aussi influencer par l'égoïsme, la cupidité et la soif de pouvoir.
Objecta Jensen.
Pense à ce que fait l'ordre impérial. Ils visent à détruire la vie et ils réussissent très bien. Ces hommes-là se fichent de tisser la laine, de bâtir des maisons ou de faire du commerce. Ils massacrent des innocents pour le plaisir de la conquête et ils s'emparent de tout ce qui leur plaît.
Mais nous leur résistons. Ayant mesuré la valeur de la vie, nous combattons pour le retour de la raison. En un sens, nous sommes l'équilibre. Jensen enroula une mèche de cheveux roux autour de son index.
Quel rapport avec ton régime végétarien?
On m'a dit que les sorciers devaient trouver l'équilibre par rapport à leurs dons. Ou leur pouvoir, appelle ça comme tu veux.
Je combats des gens, par exemple Jagang et son ordre impérial, qui cherchent à détruire la vie parce qu'elle n'a aucune valeur à leurs yeux. Cette mission me force à agir comme ceux que j'affronte, je veux dire à tuer, donc à détruire ce qui a le plus de valeur pour moi. Mon don étant lié à la voix du guerrier, ne pas consommer de chair morte est une compensation pour les vies que je prends. Et que se passe-t-il si tu manges quand même de la viande ?
La veille, songea Callan, Richard avait pris assez de vie pour avoir un grand besoin de compenser. Mais ça, Jensen ne pouvait pas le savoir.
La seule idée d'en manger me donne la nausée. J'ai pu m'y forcer quand c'était nécessaire, mais je m'en abstiens tant que c'est possible.
La magie sans équilibre est aussi dangereuse qu'un feu de bois mal contrôlé dans une cheminée.
Une idée traversa soudain l'esprit de Callan. Richard portait aux côtés l'épée de vérité, et cette arme lui imposait peut-être aussi ses propres besoins en matière d'équilibre. De plus, Richard avait été nommé sourcier de vérité par le premier sorcier lui-même, Zedicus Zulzorender, alias Zed, le grand-père du jeune homme. En plus de l'avoir élevé, Zed lui avait transmis le don. Oui, Richard tenait son pouvoir de deux lignées de sorciers, les Ral et les Zorender. L'équilibre, toujours l'équilibre.
Des sourciers souvent tout aussi légitimes que Richard avaient porté l'arme magique pendant près de 3000 ans. S'il n'avait pas si bien compris l'importance de l'équilibre, peut-être grâce à l'héritage que lui avaient laissé ses hommes, le nouveau seigneur Ral aurait sans doute eu du mal à surmonter toutes les épreuves qu'il avait affrontées.
Jensen finit de mâcher un morceau de viande séchée et relança la conversation.
« Donc, parce que tu dois te battre et parfois prendre des vies, tu es obligé de te priver de viande pour compenser tes meurtres. »
Richard avala son abricot sec et hocha la tête.
« Avoir le don doit être affreux, » dit Jensen. « Un pouvoir qui exige en permanence une contrepartie. »
La jeune femme détourna les yeux pour ne plus croiser ceux de son frère. Callan ne s'en étonna pas car elle avait payé pour savoir à quel point il pouvait être difficile, parfois, de soutenir le regard du sourcier.
« Je pensais comme toi au début, » dit Richard, « quand j'ai été nommé sourcier, puis quand j'ai découvert que j'avais le don. Ce moment-là fut le pire de ma vie. Je ne voulais pas du pouvoir et de tout ce qui allait avec. Plutôt, j'avais également rejeté l'épée parce que je refusais qu'elle réveille certaines choses tapies en moi.
« Maintenant, avoir le don et l'arme ne te gênent plus ?»«
Tu as un couteau et tu t'en sers. »
Richard se pencha en avant et tendit les mains.
« Tu as aussi des mains. Détestes-tu ton couteau ou tes doigts ?»«
Bien sûr que non, mais quel rapport avec le don ?»«
Eh bien, je suis né avec, comme on est garçon ou fille, ou comme on a des yeux bleus, verts ou noirs, ou encore comme on est avec deux mains. »
« Je ne hais pas mes mains parce que je pourrais étrangler quelqu'un avec. Mon esprit les commande et elles n'agissent pas toutes seules. Croire l'inverse revient à ignorer la véritable nature de chaque chose en ce monde. Or, la connaître est essentielle pour atteindre l'équilibre et commencer à comprendre un peu l'univers en plus du reste. »
Callan se demanda pourquoi elle n'avait pas le même besoin d'équilibre que Richard. Pourquoi cet élément était-il vital pour lui et non pour elle ? Bien qu'elle eût mortellement sommeil, elle ne put s'empêcher d'intervenir.
J'ai souvent utilisé mon pouvoir d'inquisitrice pour tuer, et ça ne m'a jamais empêché de manger de la viande.
Selon les sœurs de la lumière, répondit Richard, le voile qui sépare le monde des vivants du royaume des morts est généré par la magie.
Il se tapota la tempe.
Plus précisément, elles affirment que le voile vit en ceux qui ont le don. Les sorciers et, dans une moindre mesure, les magiciennes. D'après elles, l'équilibre est essentiel pour ceux qui ont le don parce que c'est dans le pouvoir que réside le voile. En un sens, nous sommes les gardiens du voile et les garants de l'équilibre entre les mondes.
C'est peut-être bien la vérité. Je contrôle les deux facettes de la magie, l'additive et la soustractive. Toute la différence est sans doute là. Ma dualité exige un équilibre parfait. Elle l'impose peut-être même.
Callan se demanda jusqu'à quel point cette analyse pouvait être pertinente. Car si Richard avait raison, elle n'osait pas imaginer à quel point la magie avait été déséquilibrée par ses actions.
« Le monde se désagrégeait de toutes parts, » mais nul n'avait jamais eu le choix.
Cette histoire d'équilibre,
intervint Kara en brandissant fièrement un morceau de viande séchée,
est un message envoyé au seigneur Râle par les esprits du bien. Ils lui disent de nous laisser le sale travail, voilà tout. S'il les écoute, il n'aurait rien à compenser et il pourrait manger ce qu'il veut. S'il cessait de se mettre en danger pour un oui ou pour un non, son équilibre serait parfait et il aurait le droit de dévorer une chèvre entière à chaque repas.
Jensen fronça sombrement les sourcils.
« C'est une image. Ne t'en fais pas pour ta bestiole, »
marmonna Kara.
« Maîtresse Kara a peut-être raison, »
intervint Tom.
« Seigneur Râle, des hommes et des femmes ont mission de vous protéger. Pourquoi ne les laisseriez-vous pas faire ? Des tâches bien plus importantes requièrent votre attention. »
Richard ferma les yeux et se massa lentement les tempes.
« Si j'avais toujours dû attendre que Kara vienne à mon secours, voilà un moment que j'aurais perdu la tête et pas au sens figuré. »
La mort de Sid foudroya son seigneur du regard, s'indigna qu'il lui réponde d'un demi-sourire, puis recommença de manger sa viande séchée. En le regardant grignoter un biscuit plus sec que le sable du désert, Callan constata de nouveau que Richard ne semblait pas aller bien. Et ce n'était pas seulement la fatigue. La lumière de la lampe n'éclairait qu'une moitié de son visage, laissant l'autre dans l'obscurité. Comme s'il était le voile incarné, Richard paraissait se tenir à la frontière entre les deux mondes, une moitié dans la vie, l'autre dans la mort. L'inquisitrice se pencha et écarta une mèche de cheveux qui barrait le front de son mari. Un prétexte pour prendre sa température. Il était chaud, mais dans cette fournaise, ils devaient tous avoir le front brûlant et moite de sueur. À première vue, le sourcier n'avait pas de fièvre. Laissant glisser sa main, Callan caressa la joue de Richard, qui en sourit de bonheur. Parfois, la jeune femme pensait qu'elle aurait pu passer sa vie à plonger son regard dans celui de son mari. Le voir sourire était une telle joie. En réponse, elle lui fit le sourire qu'elle ne réservait qu'à lui. Elle brûlait d'envie de l'embrasser aussi, mais il n'était pratiquement jamais seul et le genre de baiser dont elle rêvait ne se donnait pas en public.
« C'est difficile à imaginer, »
souffla soudain Friedrich.
« Je veux dire, eh bien, penser que le seigneur Râle a grandi sans rien connaître du don, honnêtement, j'ai du mal à y croire. »«
Zed, mon grand-père a le don, » expliqua Richard. « Il m'a élevé à l'écart de la magie afin que Darken Râle ne puisse pas me trouver. » C'est un peu la même chose que pour Jensen. Pour me protéger, Zed m'a gardé de l'autre côté de la frontière, en terre d'ouest, là où la magie n'existait pas.
« Et votre grand-père ne s'est jamais trahi ?» demanda Tom. « Il n'a pas laissé paraître qu'il avait le don ?»«
Non, en tout cas jusqu'à la venue de Callan en terre d'ouest. En y repensant, je me dis qu'une multitude de petits détails auraient dû me mettre la puce à l'oreille. Mais sur le coup, rien ne m'a frappé. J'ai toujours eu l'impression qu'il était un magicien, mais simplement parce qu'il savait tout sur le monde.
Zed est un vrai puits de science, et il m'a transmis la passion d'apprendre et de découvrir. Mais il m'a montré la vie dans toute sa splendeur, pas la magie, qu'il n'a même jamais évoquée devant moi. « Il est donc vrai, dit Friedrich, que Terre d'Ouest est un pays où la magie n'a pas droit de cité. »
Richard sourit à la mention de sa terre natale.
« C'est exact. J'ai grandi dans les bois de Heartland, près de la frontière, et je n'ai jamais rien vu ni entendu qui soit lié à la magie, à part Chase. »«
Chase ?»
demanda Tom. « Un ami à moi, garde frontière de son état. Un gaillard de ta taille, Tom. Alors que ta mission est de protéger le seigneur Râle, la sienne consistait à surveiller la frontière. » En fait, il s'efforçait surtout d'empêcher les gens d'en approcher afin qu'ils ne servent pas de proie à certaines créatures. À sa façon, il travaillait au maintien de l'équilibre.
Richard eut un petit sourire.
Chase n'avait pas le don, mais j'ai souvent pensé que ses exploits étaient magiques.
Friedrich aussi eut un petit sourire.
J'ai passé ma vie en Dara. Dans ma jeunesse, les gardes frontières étaient mes héros et j'aurais voulu me joindre à eux.
« Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?»
demanda Richard.
« Quand la frontière est apparue, j'étais beaucoup trop jeune. »
Le vieil homme s'immergea un moment dans ses souvenirs, puis il changea abruptement de sujet. Seigneur Ral, dans combien de temps sortirons-nous de ce désert ?
Richard tourna la tête vers l'est comme s'il pouvait voir l'horizon au-delà du cercle de lumière de la lampe.
« Si nous continuons au même rythme, répondit-il, nous aurons fait le plus gros du chemin dans quelques jours. En s'élevant vers les montagnes, encore très lointaines, le terrain est de plus en plus accidenté. Voyager sera difficile, mais avec l'altitude, nous aurons un peu moins chaud. »
« Quand atteindrons-nous cet objet ou cette chose que je dois toucher, selon Kara ?»
demanda Jensen. Richard se rembrunit un peu plus.
« Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. »«
Mais c'est vers là que nous allons ?»«
Oui. » »«
Qu'a donc touché Kara ? Kalanéel refuse obstinément de me le dire. »«
Parce que je le leur ai demandé. »«
Pourquoi donc ? Puisque nous y allons, à quoi riment ces cachotteries ?»«
Tu n'as pas le don. » Je ne veux pas altérer ta vision du problème.
Que veux-tu dire ?
Ma traduction n'est pas très avancée, mais selon ce que j'ai compris du livre que m'a remis Friedrich, même les gens qui n'ont pas le don, en tout cas pas de pouvoir, en détiennent une parcelle qui leur permet d'avoir une influence sur la magie, si minime soit-elle.
C'est comme, pour voir les couleurs.
Il ne faut pas être né aveugle, si tu saisis ce que je veux dire. Une personne qui voit peut apprécier un magnifique tableau, même si elle serait incapable de le peindre. Un seigneur Ral engendre un seul enfant ayant le don. Il peut en avoir d'autres, bien entendu, mais il est exceptionnel que l'un d'eux soit également un sorcier. Cela dit, ces rejetons-là détiennent une parcelle de dons, comme n'importe qui. Pour reprendre mon exemple, ils ne naissent pas aveugles. Le livre révèle que certains enfants d'un seigneur Ral sont absolument dépourvus de dons. On les nomme les piliers de la création, et tu es l'une de ceux-là. Comme un aveugle de naissance, tu ne peux même pas voir la magie. Cette métaphore est insuffisante, car les choses vont beaucoup plus loin que ça. Pour un aveugle, les couleurs existent, mais il ne peut pas les voir. Dans ton cas, c'est différent, comme si la magie n'était pas du tout de ce monde. Pour toi, elle n'a aucune réalité.
Comment est-ce possible ?
Je n'en sais rien. Quand nos ancêtres ont créé le lien qui unit le seigneur Ral au Daran, l'aptitude à engendrer au moins un enfant possédant le don y a été intégrée.
Comme je t'ai dit, la magie a besoin d'équilibre. Les gens comme toi sont peut-être conçus pour compenser les personnes de mon type.
Mais il peut aussi s'agir d'un hasard, une contrepartie naturelle ou que sais-je d'approchant.
Et qu'arrivera-t-il si... si j'ai un enfant ?
Richard dévisagea un long moment sa sœur.
Tes descendants seront exactement comme toi.
Jensen se laissa aller en arrière, les mains tremblantes.
Même si j'épouse quelqu'un qui possède l'étincelle de don, un homme qui n'est pas aveugle en quelque sorte, mes enfants me ressembleront.
Tout ce que tu aurais, oui, affirma Richard. Tu es un maillon brisé dans la chaîne du don. Selon le livre, lorsque cette chaîne est cassée pour une lignée donnée, c'est pour l'éternité. Si tu fondes une famille, aucun de tes enfants ne pourra en redevenir un maillon. Et s'ils se marient, il en ira de même pour leur descendance. Jusqu'à la fin des temps, j'en ai peur. C'est en partie pour ça que les seigneurs Ral ont toujours traqué leurs rejetons sans magie afin de les exterminer. Ils voulaient éviter la naissance d'un groupe humain tel que le monde n'en a jamais connu, des êtres totalement étrangers aux dons. Cette particularité étant dominante, chaque nouveau mariage aurait marqué la mort définitive d'une nouvelle étincelle de don. Le monde et l'humanité en auraient été changés à jamais. Voilà pourquoi les gens tels que toi sont appelés les piliers de la création.
C'est aussi le nom du foutu endroit que nous venons de quitter, dit Tom en désignant le désert derrière lui.
À la pâle lueur de la lampe, il regarda ses compagnons assis en rond.
« Les piliers de la création. Je trouve que c'est une bien étrange coïncidence. »
Sondant les ténèbres, Richard tenta d'apercevoir les lointains contours de l'horrible vallée où Kalan serait morte s'il avait commis la moindre erreur dans son analyse et dans son utilisation de la magie.
« Ce n'est pas une coïncidence, Tom. Il y a un lien entre les deux. »
Intitulé « Les piliers de la création », l'ouvrage qui décrivait les personnes comme Jensen était rédigé en Haut-Daran, une langue que fort peu de gens comprenaient encore. Richard l'avait apprise afin de collecter des informations dans de très anciens livres qui remontaient à l'époque des Grandes Guerres.
Ce conflit terminé depuis 3000 ans venait de recommencer et il embrasait le monde entier. Sans le vouloir, Callan et Richard avaient joué un rôle majeur dans le réveil de cette antique querelle.
« Quel lien ?»
demanda Jensen, la voix tremblante d'espoir. « Je n'en ai pas la moindre idée pour le moment, » soupira Richard. Du bout d'un doigt, Jensen fit rouler sur le sol un caillou qui forma un petit monticule dans la poussière.
« Penser que je suis un pilier de la création ou un maillon brisé de la chaîne du don me donne le sentiment d'être sale. »
« Sale ?»
répéta Tom, visiblement peiné d'entendre son ami proférer une telle chose.
« Pourquoi te sentirais-tu ainsi ?»«
Mes semblables et moi sommes aussi appelés des trous dans le monde. Je commence à comprendre pourquoi. »
Richard se pencha en avant et posa les coudes sur ses genoux.
« Je sais ce que c'est d'avoir honte de sa naissance et de ce qu'on est. » Au début, je détestais avoir eu le don en moi dès le premier jour de ma vie. Peu à peu, j'ai compris que des sentiments pareils ne mènent à rien. Penser ainsi est totalement aberrant.
Pour toi, sans doute. Dans mon cas, c'est différent.
Du bout de l'index, Jensen fit s'écrouler son tumulus miniature.
Tu n'es pas le seul de ton genre en ce monde. Il y a d'autres sorciers et des magiciennes. Et pour reprendre ta métaphore, toutes les autres personnes ne sont pas aveugles de naissance. Moi, je suis l'unique trou dans le monde.
Richard dévisagea sa demi-sœur. Une splendide jeune femme privée du don que n'importe quel seigneur râle avant lui aurait égorgé sur le champ. « Jensen, dit-il avec un grand sourire, à mes yeux tu es né avec une incroyable grâce, la pureté. Tu es comme un nouveau flocon de neige qui ne ressemble à aucun autre et dont la beauté est éblouissante. » Levant les yeux sur son frère, Jensen ne put s'empêcher de sourire aussi.
Je n'ai jamais pensé à moi sous ce jour. Pourtant, et quoi que tu en dises, je suis faite pour détruire.
Non, pour créer,
s'écria Richard.
La magie existe, c'est tout. Elle n'a en aucun cas le droit d'exister. Postuler le contraire reviendrait à nier la réalité, ni plus ni moins.
S'ils s'abstiennent de tuer, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Dirais-tu qu'être né avec les cheveux roux a nuit à la liberté des cheveux bruns qui auraient pu pousser sur ta tête ?
Jensen sourit de cette absurde question. À son expression ravie, Tom voyait les choses de la même façon qu'elle.
« Bon,
souffla Jensen,
si on en revenait à l'objet que je suis censé toucher ?
Eh bien... si cet objet touché par Kara a été modifié par un détenteur du don, tu ne percevras pas cette altération, et tu pourras voir ce qui se cache derrière la magie.
Tu espères que ça t'apprendra quelque chose d'important ?
Je n'en sais rien. C'est possible, voilà tout. Mais je suis curieux de savoir ce que tu verras, étant ce que tu es, sans que nos propos t'aient préalablement influencé.
Si cette chose t'inquiète tant, pourquoi l'avoir abandonnée ? Tu n'as pas peur que quelqu'un s'en empare ?
J'ai peur de bien des choses, répondit simplement Richard.
S'il s'agit vraiment d'un objet altéré par la magie,
dit Kara,
et si Jensen le voit tel qu'il est vraiment, ça ne signifiera pas qu'il n'est pas ce que nous pensons, et encore moins qu'il est inoffensif.
D'accord, mais nous en saurons plus et c'est l'essentiel. Toute nouvelle information peut nous aider.
Et Jensen pourra peut-être remettre ce fichu truc à l'endroit,
marmonna Kara. Richard la foudroya du regard pour l'empêcher de dire un mot de plus. Forme et contente, Kara se pencha, prit un des abricots du sourcier et le goba rageusement. Dès que le dîner fut terminé, Jensen proposa qu'on remette la nourriture restante dans le chariot, histoire que Betty ne profite pas de la nuit pour festoyer.
La chèvre était sans cesse affamée. Au moins, avec ses petits, elle savait maintenant combien il était agaçant de devoir continuellement satisfaire des estomacs avides.
Jugeant que Friedrich méritait des égards à cause de son âge, Callan lui demanda s'il voulait prendre le premier tour de garde. C'était bien plus agréable que d'être réveillé au milieu de la nuit.
Le vieil homme accepta et remercia l'inquisitrice d'un sourire.
Quand il eut déroulé le sac de couchage de sa femme et le sien, Richard éteignit la lampe. Par cette nuit étouffante et claire comme du cristal, La lumière des étoiles fut vite suffisante pour que Callan distingue ce qui se passait autour d'elle. Quand elle vit approcher un des chevreaux, visiblement décidé à venir s'ébattre entre les deux humains, l'inquisitrice le repoussa gentiment, le renvoyant dans les jupes de sa mère à la queue toujours aussi remuante. Alors qu'elle s'étendait près de Richard, Callan vit Jensen se coucher le long de Betty et prendre dans ses bras les deux petits. Le sourcier se redressa sur un coude et posa un baiser sur les lèvres de sa femme. « Je t'aime, ne l'oublie jamais. Si nous étions seuls, Seigneur Hall, il me faudrait davantage qu'un bisou de bonne nuit. » Richard sourit, embrassa le front de Callan et s'étendit à ses côtés. La jeune femme eut le cœur serré de déception. Elle aurait aimé une réaction, une promesse amoureuse ou au moins une remarque spirituelle. Se serrant contre son mari, elle lui posa une main sur l'épaule. « Richard, tu vas bien ?» La réponse mit longtemps à venir. Trop longtemps, au gré de l'inquisitrice. « J'ai très mal à la tête, c'est tout. » Callan voulut demander des précisions, mais elle y renonça, craignant de confirmer les craintes qui montaient lentement en elle. « Ça n'a rien à voir avec mes migraines d'avant, » dit le sourcier comme s'il avait lu dans l'esprit de sa compagne. « Je crois que c'est la chaleur combinée au manque de sommeil. »«
J'imagine, oui. »
Callan tira sur la couverture enroulée qui lui servait d'oreiller afin que sa nuque douloureuse puisse y reposer.
« Cette chaleur me fait le même effet. »
Elle tapota tendrement l'épaule de Richard.
« Bonne nuit. »
Épuisé et percluse de courbatures, Callan trouva vite délicieux d'être allongé, et grâce à la couverture, sa nuque lui faisait beaucoup moins mal. Une main sur l'épaule de son mari, la jeune femme s'endormit comme une masse.